Deutsche Welle, Magazine Environnement.
Au menu cette semaine, des résultats encourageants au Niger en matière de conservation des aires protégées.
La girafe, aujourd'hui, elle va plutôt en crescendo, quoi. Donc, elle est en train de monter. On est parti de 56 individus à peu près 600 individus.
Et nous irons également au Cap-Vert, où les autorités veulent miser sur le vent et le soleil pour électrifier les îles. Mesdames et messieurs, bonjour. Kossivi Tiassou au micro. La politique de conservation de la biodiversité animale et la gestion des aires protégées donnent des résultats très encourageants au Niger. Une politique qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de développement durable et de la protection de l'environnement au Niger. Désormais, les réserves nationales du pays riment avec l'accroissement des espèces qu'elles renferment, notamment des spécimens qui font la fierté de la faune nigérienne. Halissou Hamidou Garba est l'ancien chef de division des aires protégées, actuellement l'un des conseillers du ministre nigérien de l'Environnement.
On a créé maintenant, avec l'avènement de la 7e République, deux aires protégées, notamment la réserve naturelle nationale de Termitentouma, qui est la plus grande aire protégée d'Afrique. Et ensuite, tout dernièrement, on a créé une réserve naturelle nationale de Kandaji avec à son sein ce qu'on appelle la réserve intégrale des hippopotames.
Donc on peut dire que le Niger compte encore d'hippopotames?
Oui, tout à fait. Et pour les hippopotames, il faut se dire aujourd'hui, nous avons fait un inventaire en 2013 de Ayuru. À Doli. Donc, Ayuru, c'est la frontière avec le Mali, donc bien un peu au-delà, jusqu'à la frontière avec le Niger. Et le Niger fait, le fleuve Niger fait à peu près 550 km, selon les chiffres officiels, dans la partie nigérienne. Alors, cet inventaire nous a donné à peu près 320 individus d'hippopotames. Mais ces individus ne sont pas, naturellement bien répartis. Spatialement bien répartis. Donc, ils sont focalisés au niveau de certaines localités, telles que, par exemple, Ayuru, la région de Tillabéri, un peu au niveau de la zone du parc W, qui est une zone protégée.
Quelles sont les espèces les plus en vue au Niger, ou bien quelles sont les espèces que comptent beaucoup plus les réserves nigériennes?
Ah oui, il y en a vraiment beaucoup, mais les plus emblématiques, nous avons, par exemple, les Adax. Les Adax, c'est une espèce d'antilope sahélo-saharienne qui n'existe nulle part au monde en liberté qu'au Niger. Donc récemment, même nos équipes sont allées en inventaire et ils ont rencontré quelques individus lors de suivi écologique qu'ils font régulièrement. Et donc là, les Adax. Et ensuite, il y a la Dama, la gazelle Dama, qui est l'emblème des équipes nationale sportive du Niger, donc la fameuse MENA, là. C'est que vous entendez, dès que vous entendez MENA national, et que ce soit en football, en basket ou en tout autre sport national, donc c'est le nom d'une antilope très jolie et très imposante qui n'existe au monde. Je pense qu'il y en a au Maghreb, il y a un groupe qui est en Algérie, il y a un groupe qui existait en Libye, mais qui est parti au Mali, c'est parti, mais au niveau du Niger, on a deux groupes au niveau de la réserve naturelle nationale de la rivière du Ténéré et au niveau de la réserve naturelle nationale de Termitentouma. Donc, la réserve naturelle étant un naturel national de la rivière du Ténéré, étant un bien du patrimoine mondial qui fait aussi, donc, dans l'espèce est ce qu'on appelle, fait partie de ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle, un élément de la valeur universelle exceptionnelle qui a été à la base de la création de cette réserve en bien du patrimoine mondial. Donc, au-delà de ces espèces emblématiques, il y a aussi d'autres, telles que le guépard saharien, qui se trouve dans cette partie nord, mais aussi au niveau du sud, au niveau du parc W, mais éventuellement, il y a les éléphants et le lion, qui sont les espèces les plus emblématiques que nous connaissons ici, chez nous, en Afrique.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Le Niger compte de grandes aires protégées. Celle de l'Aï et du Ténéré est l'une des plus grandes aires protégées d'Afrique avec plus de 7 700 000 hectares. C'est le dernier bastion de faune saharo-sahélienne au Niger. L'Aï présente par exemple au sein d'un environnement désertique un îlot de végétation sahélienne avec des composantes soudaniennes et saharo-méditerranéennes. Comme l'explique l'ancien chef de division des aires protégées du Niger, Halissou Hamidou Garba.
En plus de cette réserve-là, nous avons encore, comme le Niger, on est des grands amateurs d'espace, on a encore créé une autre réserve en 2012 qu'on appelle la réserve naturelle nationale de Termit-Tentouma et qui est juxtaposée, qui est contiguë à cette réserve de l'Aïr. Et cette fois-ci, cette réserve, elle fait environ 9 650 et quelques hectares, 656 000 hectares précisément. Alors, c'est pour soutenir un peu la conservation et au niveau de ces deux réserves-là, c'est effectivement, ça recèle de tout ce qu'on a comme l'essentiel de la faune sahélo-saharienne. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ces deux réserves ont été créées pour pouvoir vraiment conserver la pluralité de la biodiversité au niveau donc du Sahel et du Sahara. Et
la vue aérienne de la réserve de l'Aï et du Ténéré, et même les photos montrent une étendue de sable fin, et rien que de sable. Et pourquoi l'appeler une réserve?
Oui, mais vous savez que les animaux, c'est comme les humains. Chaque animal a ce qu'on appelle sa niche écologique. Vous voyez, il y a des animaux qui ne peuvent pas évoluer dans le climat soudanais ou sahélien ou climat tempéré. Ils n'aiment que les milieux arides comme ça là. Et dans le sable, là, il y a une multitude de biodiversité que le commun de mortels ne peut pas s'imaginer.
Et ces animaux vivent de quoi? Parce qu'il n'y a que du sable là-bas.
Non, il n'y a pas que du sable. Par exemple, nous avons le renard pâle, nous avons des outardes qui sont infeudés à ce milieu. Et eux, ils s'existent dans ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Donc, et ils trouvent, il y a des espèces qui ne mangent que des touffes d'herbes. Il y a d'autres qui mangent que des insectes. Il y a d'autres qui mangent que la microfaune. Donc, par contre, c'est comme ça. Et quand ils mangent la microfaune, il y a d'autres carnivores qui les mangent. Les herbivores mangent des herbes ou des herbacées. Et ensuite, eux, ils sont mangés par les carnivores. Et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est un cycle. Et donc, dès qu'il n'y a pas une espèce, le cycle, la chaîne est rompue et c'est là où on parle de déséquilibre. Donc, ne voyez pas le désert comme ça, comme un océan de sable. Mais il faut, Dieu seul sait, quand on fait un inventaire, l'ensemble, enfin la diversité biologique qu'on trouve dedans.
Halissou Hamissou Garba, ancien chef de division des aires protégées et conseiller du ministre nigérien de l'Environnement. Au Cap-Vert, les autorités veulent miser sur le vent et le soleil pour réduire les factures énergétiques tout en faisant un geste pour l'environnement. Un partenariat public et privé a vu le jour pour atteindre ses objectifs. Un reportage de Christiane Texera, présentation Constance von Kotz.
Le Cap-Vert est un archipel, ce qui ne facilite pas la production et la distribution de l'énergie, car les 10 îles sont assez éloignées les unes des autres. Pour ne pas dépendre de l'importation de combustibles fossiles onéreux, le gouvernement investit dans les ressources renouvelables locales, disponibles en abondance, le soleil et bien sûr le vent. Un parc d'éoliennes de 11 turbines de Santiago appartient à la société Cabeolica, constituée en partenariat public-privé. Elle fournit 16% des besoins en électricité de l'île, comme l'explique l'ingénieur Anna Montero. Le Cap-Vert est un endroit idéal pour produire de l'énergie éolienne parce que le vent est très fort et plutôt constant. Il est donc adapté à cette production. Ceci permet une production éolienne tout à fait fiable. Et grâce à cette électricité supplémentaire, les coupures sont appelées à devenir moins fréquentes sur l'île. Bien qu'elles doivent encore investir dans des infrastructures, l'entreprise d'Anna Montero espère réduire à long terme les coûts de l'énergie pour les consommateurs. C'est l'équation que nous tentons de résoudre actuellement, augmenter cette source tout en réussissant à maintenir l'équilibre du réseau. Ce n'est pas une mince affaire que d'y arriver, car le coût de ces technologies est aussi considérable. Le mix énergétique du pays couvre 94% du territoire. Igualdina Moreira et ses amis mettent toute leur énergie dans la musique batuk de leur pays, le Cap-Vert. Nous sommes dans la petite communauté de Tcha Gonçalves, à environ 25 km de la capitale du Cap-Vert, Praia. Ce village a été raccordé au réseau électrique il y a seulement un an. Et cela a entraîné des changements pour toute la communauté. Igualdina, par exemple, a acheté un lave-linge, ce qui lui permet de gagner beaucoup de temps. Depuis, la facture d'électricité de la famille s'élève à environ 24 euros par mois. Et grâce au nouveau réfrigérateur, elle peut désormais conserver les aliments et même épargner un peu d'argent tous les mois. Je pense que je fais plus d'économies parce qu'avant, à la fin du mois, j'avais dépensé tout mon salaire. Un sac de riz faisait seulement 15 jours. Maintenant, même s'il ne dure pas jusqu'à la fin du mois, mais 20 ou 22 jours, on peut cuisiner et conserver la nourriture au frigo. Mais là où le réseau n'a pas encore été raccordé, comme à la ferme de João Dias, de petites solutions privées sont nécessaires. Il produit essentiellement du manioc, des carottes et du sucre de canne et souhaite étendre sa production. Il va donc investir dans les énergies renouvelables. João Dias dispose déjà d'un petit système solaire pour sa maison. Jusqu'ici, le système lui fournit juste assez d'énergie pour pomper de l'eau potable pour sa famille et pour les animaux.
L'investissement de départ est peut-être important, mais à la longue, c'est plus économique parce qu'il y a moins de maintenance et ça dure plus longtemps.
Le soleil s'est couché au Cap-Vert, mais les éoliennes continuent de fonctionner. Au village, Igualdina et les autres chanteuses de batuk continuent à jouer et chanter sur la place du marché une fois la nuit tombée. Les coupures d'électricité sont désormais rares.
C'est sur ce reportage que prend fin ce nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasu au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.